Radio Prague, les informations.
Bonjour à tous les amis et bienvenue à l'écoute du bulletin d'information de Radio Prague. Les principaux titres ce mardi, moins de 1500 demandes d'asile en République tchèque en 2016, près de 1,34 million de voitures produites dans ce même pays lors de cette même année, un record. Et enfin, la police qui enquête après l'effondrement du toit d'un gymnase à Česká Třebová. Les autorités tchèques ont enregistré 1475 demandes d'asile l'année dernière, soit 25 de moins qu'en 2015, un chiffre communiqué ce mardi par le ministère de l'Intérieur à comparer avec les 890 000 demandes d'asile déposées en 2016 chez le voisin allemand, c'est environ 600 fois plus. Comme d'habitude, les demandes d'asile en Tchéquie sont le plus souvent de nationalité ukrainienne, avec 506 requêtes. De façon plus marginale, des citoyens irakiens, cubains, chinois ou encore arméniens ont également sollicité la protection de la République tchèque en 2016. Environ 1,34 million de voitures sont sorties des usines de ce pays en 2016. Cela constitue une hausse de 8% par rapport à l'année précédente et un nouveau record. Les chiffres ont été communiqués ce mardi par l'Association de l'industrie automobile et la hausse concerne les trois constructeurs, disposant de chaînes de production dans le pays, à savoir Škoda Auto, Hyundai ainsi que la société TPCA, c'est-à-dire Toyota, Peugeot, Citroën Automobile. Les professionnels estiment que la production de voitures devrait s'accroître à nouveau cette année, mais à un rythme moins soutenu. La police a lancé une enquête pour mise en danger d'autrui pour négligence après l'effondrement du toit d'un gymnase samedi dernier à Česká Třebová, à l'est de la Bohême, dans la région de Pardubice. Le toit s'est effondré en quelques dizaines de secondes sous le poids de la neige alors qu'un tournoi de floorball, un sport proche du hockey, était organisé dans cette salle de sport récemment inaugurée. Les quelques 80 personnes présentes dans le gymnase ont eu le temps de prendre la fuite. Deux d'entre elles ont cependant été légèrement blessées dans la panique. Du sport maintenant, Petr Lacina, responsable de l'entraînement de l'équipe tchèque des judokas, a été désigné entraîneur de l'année 2016 dans le cadre de l'enquête menée par l'Union des entraîneurs professionnels du Comité olympique tchèque. Et il est notamment le coach de Lukáš Krpalek, le seul médaillé d'or tchèque aux Jeux olympiques de Rio cet été. Un sacre obtenu dans la catégorie des moins de 100 kilos. À l'occasion de la remise des prix lundi soir, il a déclaré que jusqu'à présent, la victoire olympique était pour lui clairement le sommet de sa carrière. Du tennis maintenant, après Tomáš Berdych et Kristina Plíšková, deux autres Tchèques sont passés au deuxième tour de l'Open d'Australie. C'est tout d'abord Karolína Plíšková qui s'est imposée face à l'Espagnole Sara Sorribes 6-2-6-0 et c'est également Lucie Šafářová qui a battu son adversaire, la Belge Janina Wijkmeijer en 3-7, 3-6, 7-6, 6-1. On termine avec la météo. Le ciel tchèque est plutôt ensoleillé. Mercredi, jour de la fête des Vladislaves, sur l'est du pays, en Moravie-Silésie, des chutes de neige sont toutefois possibles. Les températures ne dépassent pas les moins 2 degrés. Merci d'avoir suivi ce bulletin d'information que vous proposait Pierre Ménian. Merci également de rester à notre écoute car notre programme continue tout de suite en compagnie de Denisa Tomanova.
Faits et événements en République tchèque.
Bonjour à tous, chers amis, et bienvenue à l'écoute d'une nouvelle émission de Radio Prague. Merci à Pierre pour son bulletin d'information. Trois sujets figurent au sommaire de notre programme. Un projet déposé par le Parti communiste veut introduire dans la législation l'obligation de traduire en tchèque tous les mots étrangers employés dans la sphère publique. Et c'est Alžbeta Lušková qui s'est intéressée à ce sujet. Lundi, la journée de la mémoire de Jan Palach, étudiant qui s'était immolé par le feu le 16 janvier 1969 sur la place Venceslas à Prague pour protester contre l'occupation de la Tchécoslovaquie par les armées du pacte de Varsovie, a été commémorée un peu partout dans le pays. Nous allons revenir sur ce triste anniversaire dans quelques minutes. Et le magazine Zatopek, du nom du célèbre athlète tchèque Emil Zatopek, fête ce mardi à Bruxelles son 10e anniversaire. Notre envoyé spécial, Guillaume Narguet, qui est sur place, vous en dira plus dans notre rubrique Panorama. C'est Denisa Tomanova qui aura le plaisir de vous accompagner tout au long de cette émission. Excellente écoute à vous tous sur Radio Prague. les anglicismes fitness, fast-food, last minute ou email, mais aussi les noms de héros fictifs comme Spider-Man et Batman font aujourd'hui partie du vocabulaire courant d'un tchèque ordinaire. C'est ce que veut prochainement changer une proposition de loi sur la langue officielle. Présenté par des députés communistes, le projet vise en effet à introduire dans la législation l'obligation de traduire en tchèque tous les mots étrangers employés dans la sphère publique. Plus de détails avec Alžbeta Ruškova.
Si elle était adoptée, la proposition des députés communistes concernerait en premier lieu les commerçants, les prestataires de services et les médias. En général, tous les slogans publicitaires, mais aussi les noms de magasins ou des films étrangers devraient être traduits en tchèque. De plus, l'emploi des mots étrangers, en particulier des anglicismes qui sont les plus fréquents, devrait être évité à la télévision et à la radio. En cas d'infraction, une amende de l'ordre de 15 000 à 50 000 couronnes, soit entre 550 et 1 800 euros, pourrait être infligée. Les auteurs du projet expliquent que leurs motivations sont simples. Les mots étrangers seraient incompréhensibles pour les 30% de la population qui ne parle aucune langue étrangère, selon les statistiques, et leur utilisation dégraderait la culture tchèque. La députée Marta Semelová poursuit.
Cette mesure ne devrait pas servir de mur entre les pays à cette époque de mondialisation, mais elle devrait permettre de protéger la langue tchèque. Des législations similaires existent d'ailleurs également dans d'autres États de l'Union européenne. Les langues officielles, par exemple de la Finlande, de la France, de la Pologne ou de la Slovaquie, sont non seulement désignées dans la Constitution, mais aussi protégées par une loi spécifique. Nous pensons donc qu'il faudra introduire une protection de ce type également dans la législation tchèque.
Il existe aujourd'hui en République tchèque une loi sur la langue officielle qui impose l'emploi du tchèque à tous les services officiels de l'État. Or, aucune législation n'assure la défense du tchèque en tant que langue de la République, les quelques normes allant dans ce sens étant réparties entre différents règlements particuliers. Pour Marta Semelová, la traduction des mots empruntés n'est ainsi pas le seul objectif de cette proposition qui veut notamment unifier les règles relatives au développement et à la protection de cette langue. Mais la députée ajoute.
La langue évolue, le vocabulaire ne cesse de s'enrichir. Certains mots ont été bohémisés et sont aujourd'hui compréhensibles de tous. Mais il y en a d'autres qui sont introduits dans la langue tchèque de manière brutale et pourraient être remplacés par un équivalent tchèque. Par exemple, vous vous baladez à travers le centre de Prague ou d'une autre grande ville. Pourquoi tous les magasins doivent-ils avoir un nom étranger ? Nous sommes en République tchèque, mais dans la rue, il y a parfois seulement un magasin avec des inscriptions en tchèque. Ce n'est pas bien.
La responsabilité de décider quels mots remplacer et par quoi les remplacer serait du ressort d'une équipe de linguistes. Cependant, ceci s'avère pour la plupart opposé à la loi en question. C'est le cas par exemple du directeur de l'Institut de la langue tchèque de l'Académie des sciences, Martin Proušek.
Il n'est pas toujours possible de traduire des mots empruntés, par exemple quand ils décrivent une réalité qui n'a pas existé jusqu'à présent en République tchèque, comme par exemple le nom de véhicule Segway. Souvent, on ne peut donc pas trouver un terme tchèque au moment même de l'introduction du mot dans la langue tchèque. Tout dépend bien sûr du contexte dans lequel le mot apparaît, de son intelligibilité ou non, etc. Bref, ce qui est le plus dangereux pour une langue, c'est que beaucoup de gens pensent qu'il est possible d'appliquer des règles globales qui seront valables dans toutes les situations, mais la vérité est que chaque cas doit être évalué indépendamment.
La proposition de loi, dont la première version remonte à 1999 déjà, n'a trouvé ses partisans ni dans les rangs du gouvernement de Bohuslav Sobotka, qui a déjà manifesté sa position négative à son égard, ni à la Chambre des députés. Président du comité parlementaire pour la science et l'éducation, Jiří Zlatuška du mouvement ANO affirme.
Cítím zatím snahu vrátit se do dob, kdy...
Je vois dans ce projet de la loi des efforts pour retourner à l'époque du communisme où les connaissances en langue étrangère ne décollaient pas. Aujourd'hui, on dit que les personnes âgées ne parlent pas de langue étrangère, mais c'est la conséquence de la politique de l'ancien régime. Avant, il était tout à fait normal de vivre dans un milieu multilingue.
Le projet sera traité lors d'une prochaine réunion de la Chambre basse du Parlement. Si elle n'est pas largement soutenue par la politicien, cette mesure a tout de même un impact positif. Elle suscite depuis quelques jours un vif débat sur les frontières de la langue tchèque.
La journée de la mémoire de Jan Palach, étudiant qui s'est immolé par le feu le 16 janvier 1969 sur la place Venceslas à Prague, a été commémorée à travers tout le pays ce lundi. Cet acte à la fois courageux et désespéré de Jan Palach, qui s'était qualifié de première torche humaine dans sa lettre d'adieu et qui est décédé 3 jours plus tard, continue de susciter de l'émotion et un profond respect. Celui qui était alors un simple étudiant de philosophie est ainsi devenu un symbole du combat en faveur de la démocratie. Jan Palach a voulu par ce geste réveiller la société tchécoslovaque de la torpeur dont elle commençait à être victime après l'invasion des troupes du pacte de Varsovie du pays en août 68. Ce lundi, 48 ans plus tard, des hommes politiques ainsi que des représentants de différentes initiatives citoyennes ont rendu hommage à Jan Palach sur le lieu de son immolation. Nous écoutons le Premier ministre Bohuslav Sobotka.
L'acte de Jan Palach, un acte très courageux, est un élément important de notre histoire et nous ne devrions certainement pas l'oublier. Jan Palach protestait contre l'occupation, contre l'absence de liberté, contre la normalisation qui était en train de se mettre en place à l'époque.
Parmi les personnes qui sont venues lui rendre hommage sur la place Venceslas figuraient notamment les anciens camarades d'études de Palach, à l'exemple de Hanna qui se souvient.
Jan Palach avait un an de moins que moi. Nous étions à la même faculté. Je me souviens qu'il y a eu un énorme sursaut avec son geste, mais après tout est retombé dans la grisaille. Je me souviens que quelques années après le drame, nous sommes partis faire du ski de fond et tout d'un coup, on voit que quelqu'un avait écrit un 16 janvier dans la neige « Palach vit ». Je crois que ce sacrifice n'a pas été inutile.
Des rassemblements se sont déroulés un peu partout dans le pays et en particulier sur le lieu hautement symbolique qu'est le parvis de la faculté de philosophie de l'université Charles à Prague où Jan Palach était étudiant. Eva, qui est aujourd'hui étudiante, a expliqué sa présence à cette commémoration.
Mně přijde vlastně hrozně důležité, že se k tomu odkazu někdo vrací.
Je trouve qu'il est extrêmement important que l'on revienne toujours vers cet héritage, ce lex. Et même s'il n'est question que d'une demi-heure par an, ce rassemblement permet de faire réfléchir non seulement les étudiants, mais peut-être bien aussi la direction de l'université ou de la faculté.
Studenty, ale třeba i vedení fakulty, univerzity.
Sachant que c'est le conseil des étudiants qui organise chaque année ce rassemblement, la doyenne de la faculté de philosophie, Miriam Frejdová, a indiqué pour sa part.
Évidemment, Jan Palach était étudiant, il est l'un d'entre eux. En fin de compte, ce sont les étudiants qui sont notre espoir, notre futur. Je suis donc très contente qu'ils continuent de revendiquer cet héritage, car la voix des étudiants devrait être encore davantage entendue que ma propre voix.
Des dizaines d'étudiants et des professeurs se sont recueillis ce lundi matin devant le buste de Jan Palach installé sur le mur extérieur de la faculté, situé sur la place désormais baptisée Jan Palach. Le sculpteur Pavel Karous a voulu rappeler l'histoire de ce moulage.
L'auteur de ce buste, Olbram Zoubek, a réussi à pénétrer de l'extérieur dans le département de pathologie situé à Albertov et qui était encore sous surveillance des agents de l'ancienne police secrète communiste STB. Il a pris le moulage du corps calciné pour en réaliser ce masque mortuaire.
L'an dernier, le 16 janvier, un nouveau monument commémoratif à la mémoire de l'étudiant immolé a été inauguré sur la place Jan Palach. Il s'agit d'une œuvre réalisée dans les années 90 par un architecte américain ayant des origines tchèques, John Hajduk. Il a voulu également rendre hommage à la mère de Jan Palach en baptisant le monument « La maison du suicidé » et « La maison de la mère du suicidé ». Mais les Tchèques ont aussi envie de se souvenir de Jan Palach de façon vivante et active. Le programme de la semaine de Palach prévoit différentes conférences, workshops, ainsi que la projection du film « Buisson ardent » ce mardi à la faculté de philosophie. Selon la tradition qui a débuté en 1969, des étudiants ont également entamé une chaîne de grève de la faim lundi pour honorer la mémoire non seulement de Jan Palach, mais aussi de Jan Zaïts, étudiant qui s'était immolé par le feu le 25 février 1969. Une exposition rappelant les événements de l'époque a notamment été inaugurée à l'église Saint-Nicolas de la place de la Vieille Ville à Prague. Et précisons enfin que la maison familiale de Jan Palach, située à Vchetate, près de la ville de Mielnik, en Bohême centrale, sera transformée en musée et centre éducatif qui ouvrira symboliquement ses portes le 21 août 2018, soit 50 ans après le début de l'occupation de la Tchécoslovaquie par les troupes du pacte de Varsovie. Passons à la rubrique Panorama. Všechno nejlepší k narozeninám Emilku Zátopek. Entendez par là, le magazine Zátopek fête ce mardi à Bruxelles son 10e anniversaire. En janvier 2007, sortait le premier numéro d'un magazine en français de course à pied, baptisé du nom du célèbre athlète tchèque Emil Zátopek. Reportage de Guillaume Narguet, notre envoyé spécial à Bruxelles.
Panorama.
Panorama.
La première fois que j'ai entendu Gilles prononcer son nom, j'ai dit répète un peu, c'est un clown, Zápotek. J'avais franchement du mal à le situer.
Ne vous fiez surtout pas aux apparences. Malgré ce qu'elle affirme sur le ton de la plaisanterie, Anna Murator, une des quelques journalistes qui travaillent au sein de la rédaction du magazine, sait désormais très bien de qui et de quoi il en retourne à l'évocation du nom de Zátopek.
Mais bon, ça a vite été rétabli et puis on a découvert en effet un personnage avec une aura incroyable. C'est limité à la course à pied bien sûr, mais il a une dimension énorme internationalement. Enfin, c'était quand même une figure de l'athlétisme mondial. Et bon, on a découvert, ça m'a permis moi de découvrir quelqu'un, une personnalité très attachante déjà, et puis bien sûr un homme qui est habitué des performances et qui a, on peut dire, révolutionner quand même le monde de la course à pied.
Oui, je crois que j'appartiens à une génération qui ne connaît pas vraiment beaucoup Zátopek. Même parmi les sportifs, j'en entends beaucoup qui disent plutôt « j'adore Zápotek » plutôt que Zátopek.
Aurore Braconnier, elle, est la petite dernière de la rédaction. Et comme sa collègue Anna, Aurore aussi a d'abord dû se familiariser avec ce drôle de personnage d'une autre époque et d'un autre monde.
J'ai eu la chance d'interviewer beaucoup de personnes qui appartenaient à la génération de Zátopek et qui m'ont fait découvrir un homme qui avait l'air d'avoir beaucoup, beaucoup de valeurs humaines, qui transcendent et qui dépassent le sport. Donc voilà, je suis contente d'apprendre toujours et je pense qu'il est très inspirant pour beaucoup de personnes.
Bon, Dieu me l'a donné, il m'a fabriqué, quoi. Il m'a fabriqué, ça n'a pas été un champion contre moi. Sans Zátopek, peut-être, je suis émotionné. Sans Zátopek, je ne serais pas sorti d'une bataille de 10 ans, hein. 10 ans, une bataille de titans, attention. On finit la course, on montait sur la pelouse, on s'embrassait comme deux amoureux, pas comme ceux de maintenant, là. C'était fabuleux.
Alain Mimoun, grand ami de Zátopek, que le bon Dieu m'a donné, affirmait-il, ne compte pas parmi les noms qu'Aurore Braconnier a eu le plaisir d'interroger. Et ce, même si une très émouvante interview du champion olympique du marathon à Melbourne en 1956 a bien entendu été publiée dans le magazine durant ces 10 années. Mais des champions qui ont évoqué leurs souvenirs de la locomotive humaine, surnom du Tchèque, Aurore en a rencontré d'autres.
Moi j'ai fait Michel Jazy, Fernand Colbeck, Bruce Tulot, voilà. Mais c'est toutes des personnes qui ont plus ou moins côtoyé, qui étaient plus ou moins proches de Zátopek. Et qui en parlaient tous avec beaucoup, beaucoup de respect. Ils pensaient surtout que c'était une personne, qui revient souvent, une personne modeste, humble, très travailleuse, solidaire, généreuse. En gros, c'est ce qui ressort de ces interviews.
Ces valeurs qui étaient celles du coureur tchèque sont aussi celles que s'efforce de transmettre le magazine. Aujourd'hui, ce Zatopek de papier, en texte et en images, a donc 10 ans, un âge à deux chiffres. Et si un enfant reste encore un enfant à 10 ans, c'est aussi un temps où un jeune homme ou une jeune fille sera bientôt un adulte. Pour un magazine comme Zatopek, les choses se passent un peu différemment, comme l'explique son rédacteur en chef, Gilles Göttgebuhr.
Un magazine vieillit plus vite qu'un enfant, c'est-à-dire que dès le deuxième numéro, et puis tous ceux qui suivent, il prend un rythme de croisière. La grande difficulté en édition, c'est pas le premier numéro. Le premier numéro, en général, on peut mobiliser toutes les énergies, il y a beaucoup d'enthousiasme. Souvent, le premier numéro d'un titre passe relativement bien. En revanche, le deuxième, c'est beaucoup plus difficile, parce que là, on rentre dans une logique de continuité, et puis il faut chaque fois trouver des nouveaux sujets, des nouveaux articles, des nouveaux contributeurs. Et c'est là que ça devient compliqué. Et Zatopek a passé ce stade du deuxième numéro, et puis il a passé le stade de tous les numéros qui suivent jusqu'à fêter son 10e anniversaire aujourd'hui.
C'est désormais un magazine que l'on trouve dans différents pays. Au début, c'était un magazine belge. Aujourd'hui, il existe dans différentes versions.
Donc au départ, c'est vrai, on a commencé de façon modeste sur la Belgique et encore sur la Belgique francophone. Ça fait 4 millions d'habitants sur 10 que compte notre pays. Et puis, petit à petit, comme le magazine rencontrait un certain succès, eh bien, ce territoire s'est élargi avec un Zatopek qui a été distribué sur la Flandre, avec une version donc néerlandophone du Zatopek. Puis la France, la Suisse, le Canada. Et donc actuellement, effectivement, on a un magazine trimestriel avec donc une sortie tous les 3 mois qui est distribué dans tous les pays francophones.
Parvenez-vous à conserver l'idée de départ, à savoir intituler le magazine Zatopek, parce que Zatopek représente quelque chose de particulier pour la course à pied, au-delà de ses performances, par ce qu'il était en tant qu'homme. En quoi votre magazine est-il donc différent de tous ceux qui peuvent exister sur la course à pied, et on sait qu'ils sont nombreux?
Mais par la périodicité, déjà, donc je le disais, on sort une fois tous les 3 mois, ce qui fait que on est mal mis pour faire de l'actualité du sport, ici en l'occurrence la course à pied. Ça n'aurait pas tellement de sens, puisqu'il y a de tels délais entre les parutions, qu'on s'intéresse plutôt à des thématiques comme la place que le sport ou la course à pied occupe dans la société. Donc tous les liens qu'on peut faire avec l'histoire, avec la médecine, avec la sociologie, l'économie. Finalement, on peut relier cette activité pratiquement à tout, parce que via la course à pied, bien entendu, on touche du doigt des notions comme l'alimentation, mais aussi comme son organisation de temps libre, mais aussi comme les voyages, parce que beaucoup de gens profitent de cette passion pour justement découvrir des villes en courant. Et donc, vous voyez, via ce biais-là, on peut aborder un tas de sujets, et c'est ce qu'on essaye de faire dans Zatopek, c'est-à-dire utiliser la course à pied comme une fenêtre pour ouvrir vers le monde.
Les lecteurs sont-ils réceptifs à ce type de sujet?
On peut en juger par le courrier qu'on reçoit et par l'évolution des ventes. Donc sur base de ces deux critères, oui, on va répondre oui, ils sont plutôt réceptifs.
Et quels sont les chiffres actuels?
Alors évidemment, ça dépend en fonction des pays, mais disons que l'un dans l'autre, on arrive à vendre 25-30 000 Zatopek, tout compris, donc avec les différentes versions dans le monde. Sachant que chaque magazine est lu par plusieurs personnes, donc vous voyez, ça fait quand même quelques dizaines, peut-être même centaines de milliers de lecteurs à chaque parution.
Et pour fêter ces milliers de lecteurs amateurs de course à pied qui, au fil de la décennie, ont découvert ou appris à mieux connaître Émile Zatopek, une manifestation très particulière est organisée ce mardi soir en coopération avec le Centre tchèque à Bruxelles et le Comité olympique tchèque, un événement dont Gilles Göttgebuhr est heureux et fier de la tenue.
Donc c'est une manifestation qu'on a appelée le Zatopek Revival, puisqu'on va reproduire le record du monde qu'Émile Zatopek a établi le 1er juin 1954, et c'était à Bruxelles, dans le stade des Trois Tilleuls, une commune de Bruxelles, qui s'appelle Boisfort. Et donc on a donné rendez-vous à tout le monde dans ce stade qui existe encore toujours, qui bien sûr est un peu désuet aujourd'hui, mais qui malgré tout a son charme. Et on a donné rendez-vous aux journalistes de Zatopek, donc l'équipe, à tous ceux qui travaillent de près ou de loin pour le titre, ceux qui s'occupent des organisations, puisque autour de Zatopek il y a quand même pas mal de courses qui sont organisées, aux lecteurs, enfin vous voyez, de façon très large, on a donné rendez-vous à tout le monde sur la piste pour égaler le record de Zatopek. Bien sûr, il n'y a personne dans l'équipe qui sera capable de faire les 25 tours de piste en moins de 29 minutes, hein, puisque c'était son record de l'époque, 28 minutes et 54 secondes. Mais tous ensemble, on devrait pouvoir y parvenir. Donc chacun fera, selon sa forme, quelques dizaines, centaines de mètres. Il y en a peut-être qui enchaîneront les tours. On a quelques très bons coureurs dans l'équipe. Et donc, vous voyez, tous ensemble, on arrivera à égaler le record. Il y a un vélo qui a été prévu qui sera en fait notre référence, donc notre locomotive à nous. Et il faudra toujours suivre le vélo. Et donc, on commence la course à 19h30 ce mardi soir. Et on la terminera très précisément à 19h58 et 54 secondes, puisque c'est le record à battre et celui-là.
Pour les Tchèques qui sont ici à Bruxelles, donc concrètement l'ambassade, est-ce que le dixième anniversaire de votre magazine compte également? Est-ce que le fait qu'il y ait un titre, Zatopek, qu'est-ce que ça représente pour eux?
Ben, on s'aperçoit qu'effectivement, et on le comprend très volontiers, imaginons qu'en Tchéquie, un magazine s'appelle Eddy Merckx, je suis sûr que tous les Belges s'enorgueilliraient de la chose. Et ici, je sens bien qu'il y a une fierté de ce que ce nom de Zatopek passe ainsi à travers les générations. Du coup, on a organisé la cérémonie de ce soir, enfin l'anniversaire, l'événement de ce soir, en collaboration étroite avec l'ambassade. Et par exemple, on prévoit des températures très basses, hein. Donc il fera froid, même très froid, et à l'arrivée...
Des conditions de Tchèque.
Exactement, et on annonce à moins de 10 degrés, ou peut-être pire. Et donc à l'arrivée, eh bien, l'ambassadeur a prévu un grand samovar d'une liqueur tchèque qui est servie chaude et qui devrait... retaper tous ceux qui ont couru, vous voyez. Et puis, à la suite de quoi, on aura une salle de réception qui a été mise à notre disposition, où sont exposées les planches de la BD de Jaromir, qui vient de sortir et donc est consacrée à la biographie d'Emile Zatopek. Et donc, on aura ces planches de BD, mais en format gigantesque, de l'ordre de 1m50 de haut et 1m de large. Donc, on aura une exposition des meilleures planches de la BD.
Et pour en savoir plus sur cette belle soirée Revival Zatopek dans la capitale européenne, soyez à l'écoute de nos émissions ce mercredi. À Bruxelles, pour Radio Prague, Guillaume Narguet.
Chers amis, c'est ainsi que s'achève notre programme en langue française sur Radio Prague. Pour plus d'informations sur l'actualité tchèque, n'hésitez pas à retrouver nos pages sur les réseaux sociaux ou tout simplement au www.radio.cz/fr. C'est Danessa Tomanova qui a eu le plaisir de vous présenter cette émission. Merci de votre attention et à très bientôt de nouveau sur Radio Prague. Ahoj.